s'attaquer aux bénéficiaires du RSA à un an de la présidentielle, c'est une nouvelle idée qui fait polémique. La gauche dénonce des propositions irresponsables.
Faire croire aux Français que des abus qui peuvent exister au niveau du RSA, qui a été mis en place d'ailleurs par ce gouvernement, serait la cause, je cite ces propos, d'un cancer qui rongerait la société, c'est absurde et dangereux.
C'est cela encore qu'on va les embêter, ils n'ont pas assez de problèmes dans la vie, on va leur en créer de plus. Et pour faire quoi? Les contraindre à travailler? Mais ils ne demandent pas mieux que de travailler la plupart d'entre eux. Donnez-leur un emploi, vous verrez s'ils n'y iraient pas.
Pour certains, à droite, à l'UMP comme au gouvernement, les abus supposés sont en ligne de mire.
Tout ce qui va dans le sens de pousser les gens à quitter un assistanat dont la majorité, j'allais dire, ils sont malgré eux, mais dans une minorité aussi par moments a tendance à la trouver pas si inconfortable que ça, va dans le bon sens.
Mais cette polémique n'épargne pas le gouvernement, elle le divise même fortement. Roselyne Bachelot, en charge du RSA, recadre sèchement Laurent Wauquiez.
On vient d'entendre un extrait du journal télé de France 2 du 9 mai 2011 autour des réactions de la classe politique, ici Valls, Mélenchon ou encore Mariani, réaction aux propositions de Laurent Wauquiez sur le RSA qu'il qualifiait à l'époque d'assistanat rongeant la société française et pour lequel il appelait déjà à une contrepartie.
Et si Wauquiez en rêvait, le gouvernement Macron souhaite aujourd'hui le faire. Je parle ici de l'expérimentation du RSA, le revenu de solidarité active, sous condition. Cette expérimentation commence début mai sur le territoire d'Ille-et-Vilaine. Marie s'est rendue pour nous à l'hôtel du département pour faire le point sur cette mesure polémique.
Bonjour Caroline Roger-Moigneux.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente du conseil départemental, déléguée à l'insertion, à la lutte contre la pauvreté et aux gens du voyage. Alors le département Ille-et-Vilaine fait donc partie des 18 retenus pour cette expérimentation du RSA sous condition. L'objectif final, c'est une généralisation de ce dispositif pour 2024. Emmanuel Macron avait fait de cette réforme du RSA une promesse de campagne, souhaitant notamment une contrainte pour obtenir cette allocation par l'obligation d'une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle. Et cette obligation, le département y est opposé, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Avant d'entrer plus en détail sur cette réforme et les questions qu'elle soulève, j'aimerais revenir, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, sur la notion même de RSA, avec ou sans condition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, voilà, en quelques mots de quoi il s'agit et aussi nous dire quel montant ça représente actuellement ?
Oui, alors le RSA, c'est un dispositif d'aide sociale qui est le dernier rempart avant la très grande précarité. Je le dis et je le redis souvent, on ne vit pas au RSA, on survit. C'est donc une dernière allocation pour les personnes les plus en précarité. Principalement, actuellement, pour vous donner des chiffres, les bénéficiaires du RSA sur le département représentent près de 19 000 personnes, avec près de 52% de ces 19 000 personnes sont des femmes. 30% sont en situation de monoparentalité et 26% sont des jeunes. Donc vous voyez bien la typologie de public que cela représente, des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, avec les revalorisations qui ont eu lieu dans le cadre du RSA, c'est à peu près 600 euros pour une personne seule, le RSA. C'est une allocation qui est versée par les départements et c'est aussi un accompagnement social. On parle beaucoup d'engagement réciproque, notamment, comme vous le disiez, du président de la République, mais aussi de certains élus et ministres. Et je rappelle que c'est aussi un engagement de notre collectivité, des collectivités qui ont aussi nécessité d'apporter un accompagnement social et professionnel aux bénéficiaires du RSA sur notre département.
Alors ce qui fait débat, je l'évoquais, c'est la question des heures d'activité obligatoires, hein, 15 à 20 heures par semaine, donc en contrepartie du RSA. Sur le papier, ce sont des heures d'insertion, mais de nombreuses associations et syndicats y voient une sorte de travail dissimulé. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Nous avons fait le choix, avec d'autres collectivités gauches et écologistes, de rentrer dans cette expérimentation pour démontrer que l'accompagnement des bénéficiaires du RSA était extrêmement important et que nous avions nous-mêmes à regarder les modalités que nous apportions sur cet accompagnement au niveau de notre département. Nous avons, vous parliez tout à l'heure d'un communiqué de presse, donc nous avons fait un communiqué de presse avec, nous sommes trois collectivités de gauche engagées dans cette expérimentation, non pas de, tout à l'heure vous disiez du RSA sous condition, et je le précise, mais d'un accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA. C'est ça que nous défendons, c'est-à-dire un meilleur accompagnement, une meilleure proximité, un lien de confiance et de qualité et un accompagnement social et professionnel. Le président du département, les présidents des autres collectivités gauche et écologiste se sont positionnés très clairement et nous avons eu aujourd'hui des gages du ministre concernant ces heures d'activité qui ne sont pas et qui ne seront pas, en tout cas pour nous au niveau de notre collectivité, des heures de travail dissimulées. Tout travail mérite salaire et un juste salaire. Donc sur ce motif-là, nous sommes effectivement très clairs. Nous allons montrer et donner à voir que les bénéficiaires du RSA les plus proches de l'emploi, nous avons davantage à les soutenir. Et on le fait déjà dans le cadre de l'accompagnement global, qui est un accompagnement qui est porté à la fois par Pôle emploi et à la fois par les référents RSA, que ce soit dans nos CEDAS, par les villes délégataires, mais aussi par les missions locales à qui nous déléguons l'accompagnement des bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans, que cet accompagnement global, il fonctionne avec un accompagnement lié à l'emploi et aussi un accompagnement social de plus grande proximité. Mais nous savons, et nous avons aussi des personnes qui sont au RSA depuis longtemps, qui connaissent des freins importants de santé, de mobilité, de logement, et qui ne sont pas accessibles, en tout cas dont le projet, nous, notre projet d'accompagnement de collectivité, des solidarités, c'est de les accompagner à retrouver de la confiance en eux, à retrouver un logement, une stabilité, et de se sentir mieux, une confiance en soi, et donc une meilleure prise en compte, notamment dans la société.
Et donc justement, cet accompagnement, pour donner quelques chiffres, seulement 43% des bénéficiaires français étaient suivis par un organisme de l'emploi en 2022, c'est-à-dire que le reste était suivi par d'autres organismes. Et ça concerne 73% des personnes en Ille-et-Vilaine. Comment est-ce que vous comptez le mettre en place, ce meilleur accompagnement ?
Alors actuellement, pour vous donner un ordre d'idée sur les chiffres, un référent RSA aujourd'hui accompagne entre 200 et 250 personnes au RSA. La proposition qui nous est faite dans le cadre de France Travail et notamment le soutien financier de l'État, avec des limites que nous avons franchies et notamment, en tout cas que nous avons bordées et que nous ne souhaitons pas franchir sur les 15-20 heures, c'est d'avoir un accompagnement renforcé, donc un référent RSA pour 50 personnes. Donc si on se dit qu'avec un référent RSA qui connaît mieux le bénéficiaire du RSA, qui a du temps pour travailler en partenariat sur son territoire, d'actionner les partenaires de la formation, les partenaires de l'emploi, les associations de soutien à la précarité, les associations sportives, culturelles, nous permettrons de montrer que l'accompagnement des bénéficiaires du RSA produit et que produit aussi de l'insertion sociale et puis du lien social dans notre collectivité. Et nous, aujourd'hui, on pense qu'on en a tous et toutes besoin.
Et donc ce recrutement, disons, d'accompagnateurs sociaux, est-ce qu'il est possible aujourd'hui ? Est-ce que vous allez avoir peut-être plus de budget ? Parce que forcément, ça coûte de l'argent. Comment est-ce qu'on met ça en place ?
Alors aujourd'hui, nous attendons la lettre de cadrage et la signature de la convention avec l'État. Nous avons fait une proposition de projet donc sur le territoire de Redon et des Vallons de Vilaine, puisque l'expérimentation se fera sur une partie du département et pas sur l'ensemble du département. Et donc nous avons sollicité un budget de plus de 700 000 euros pour recruter les personnes dans le cadre de l'accompagnement, notamment deux infirmières, parce que nous pensons essentiel d'avoir des professionnels de santé qui pourront répondre aux besoins, notamment des bénéficiaires du RSA sur le territoire d'expérimentation.
Donc pour revenir un petit peu sur cette question des heures d'activité obligatoires, ça veut dire que vous allez expérimenter le RSA, mais sans condition d'activité ?
Alors nous avons effectivement posé des lignes rouges dans le cadre de cette expérimentation, et d'une, que les 15 à 20 heures ne soient pas de l'activité salariée, entre guillemets, qui ne serait pas rémunérée, et aussi que ces 15-20 heures ne soient pas corrélées à des sanctions, voire à des exclusions du dispositif du RSA. Donc pour parler concrètement, une personne, je peux prendre un exemple, une femme seule avec enfant, qui n'a pas de mode de garde, qui n'a pas de mobilité, qui a des enfants en bas âge, peut-être un enfant porteur de handicap. Sa journée, elle est déjà très prise. On parle d'inactif, mais moi je rappelle que les personnes qui sont en situation de très grande précarité sont actives. Quand on est en précarité et qu'on doit prendre le bus en ruralité pour aller d'un point A à un point B et que ça prend du temps parce qu'il n'y a pas assez de modes de transport, qu'on est obligé d'aller faire la queue aux banques alimentaires, et les jeunes de l'université le savent mieux que quiconque malheureusement, et ça prend du temps. Donc c'est aussi de montrer que les gens, c'est pas parce qu'ils ne sont pas en activité salariés, qui n'ont pas une activité pour le bien-être de leur famille, pour l'éducation de leurs enfants. Donc ces 15-20 heures ne peuvent pas correspondre à la réalité de tous les bénéficiaires du RSA. Pour celles et ceux qui sont en souhait de reprendre une activité ou une formation, ces 15-20 heures pourront être valorisées. C'est-à-dire que ce sera mis dans leur contrat. Actuellement, le RSA, il y a déjà un contrat d'engagement réciproque qui existe avec des objectifs, donc elles seront valorisées dans le contrat. Mais à aucun cas, et nous avons été très clairs, les collectivités de gauche et écologistes, et je suis en tant qu'élue du bloc écologiste très très attachée à ça, ne sera pas une condition de sortie aujourd'hui du RSA. Et je le rappelle, le RSA, c'est une compétence pleine et entière des départements, et nous souhaitons également garder la main sur les enjeux de ces sanctions pour les bénéficiaires du RSA.
Oui, parce que ça pourrait même au final dissuader des gens qui n'auraient pas encore fait la demande du RSA, qui n'y seraient pas encore. En France, c'est environ 30% de la population éligible qui ne le demande pas. Justement, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui ne font pas ces demandes ? Est-ce qu'on sait un petit peu qui est concerné ? Est-ce qu'on connaît les raisons aujourd'hui ?
Alors, vous avez tout à fait raison de dire que ça pourrait déjà être à nouveau une situation qui fait craindre à certaines personnes d'être d'ores et déjà exclues, et donc d'augmenter le non-recours à ce droit. Je le rappelle que c'est un droit à une allocation de subsistance. Aujourd'hui, les chiffres que nous connaissons, et vous le disiez, c'est 30% de non-recours aux allocations, toutes allocations confondues, au niveau national. À l'échelle du département, nous allons engager une étude avec une chercheure qui va nous aider, donc on va être sur une étude plutôt à moyen terme dans le cadre de sa thèse, à mieux comprendre qui sont les personnes qui pourraient prétendre à l'allocation et qui n'y font pas appel, et puis aussi les territoires. Est-ce que certains territoires sont plus concernés que d'autres, quel type de population, quel type d'allocation n'est pas recouverte. Donc en tout cas, nous menons de front ce travail-là qui va démarrer dans les mois à venir pour mieux comprendre ce non-recours.
Il y a aussi l'image des allocataires en ce moment qui est pas toujours très juste. Hein. Souvent, on entend parler d'eux comme des assistés, hein, comme si être au RSA, c'était un choix. Alors qu'il est largement inférieur au seuil de pauvreté, qui est quasiment le double, hein, 1128 euros par mois pour une personne seule. Vous le disiez tout à l'heure, au RSA, on ne vit pas, on survit. Alors comment on explique cette figure de l'assistanat qui persiste en France ?
Alors c'est un point important que vous soulevez et qui est très important pour moi en tant qu'élue. C'est la représentation qu'on a du pauvre dans notre société. Et cette représentation-là, certains élus, malheureusement, souhaite le marquer socialement. Je le disais tout à l'heure, 52% des bénéficiaires du RSA sur notre département sont des femmes. Je ne suis pas sûre que ce soit la représentation qui soit portée dans tous les médias télé qui nous disent en boucle que les bénéficiaires du RSA seraient potentiellement des hommes plutôt d'un âge mûr inactif sur leur canapé. Donc la question de la pauvreté touche un grand nombre de personnes, touche malheureusement de plus en plus notre jeunesse. Pour moi, c'est un enjeu de solidarité extrêmement important. C'est-à-dire que la pauvreté peut toucher tout le monde, vous le disiez. Nous avons des personnes, et je le rappelle, qui sont au RSA et qui travaillent. C'est-à-dire qui alternent des moments d'activité professionnelle mais qui ne leur permet pas de vivre et qui ont un complément de RSA. Donc la pauvreté, malheureusement, on a un travail très très important à faire en termes de représentation, et ça fait partie de mes engagements et de mes enjeux en tant qu'élue, et que nous mettrons en avant dans le cadre de l'expérimentation France Travail, notamment donnant la parole aux bénéficiaires du RSA pour nous rappeler à nous, la population, les citoyens, qui ils sont vraiment et quelles sont leurs conditions de vie. Tout à l'heure, je vous disais, on ne vit pas au RSA, on survit. On dit aussi des bénéficiaires du RSA que ce sont des inactifs. Alors que je vous disais tout à l'heure, quand on regarde le planning de quelqu'un qui est au RSA, je peux vous dire qu'il est complet, parce que quand on est obligé d'aller demander de l'aide de subsistance, ça occupe fortement ses journées.
Et puis, moi, je repense au côté dissuasif, peut-être aussi la question des démarches administratives. Est-ce qu'il y aurait peut-être des choses à revoir aussi ? Il y a beaucoup de gens qui peuvent se sentir dépassés par toutes les démarches que ça implique et qui ne s'y connaissent pas forcément en administration. Est-ce qu'il y a des choses prévues à ce niveau sur peut-être une simplification ?
Alors, effectivement, il y a des choses qui sont prévues, mais le risque de la simplification, c'est aussi de simplifier la sortie. Donc, on y est effectivement très attentif, et ça fait aussi partie de nos lignes rouges. Oui, pour une simplification administrative. Oui, pour un maintien du lien interpersonnel. Un bénéficiaire du RSA, c'est aussi une personne. Et l'accompagnement social, il ne peut pas être que remplir des cases derrière un ordinateur. On voit bien qu'il y a des situations particulières et que l'accompagnement social, le premier rendez-vous va être extrêmement important. Ça fait partie de l'expérimentation. On souhaite qu'il reste à la main des départements, peut-être conjointement avec Pôle emploi qui va faire la réforme France Travail. Mais en tout cas, ce temps-là va être important. Et pour un dernier point sur la simplification, moi j'ai été extrêmement surprise en échangeant avec les services et avec les référents RSA par ma propre représentation que je pouvais avoir de la jeunesse, en me disant que les personnes qui pouvaient être le plus en difficulté pour remplir, notamment les documents en ligne pour les demandes de RSA, étaient plutôt les personnes d'un âge plus avancé. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des jeunes qui sont très bons pour utiliser les réseaux sociaux, et on peut sourire effectivement l'une et l'autre, mais qui sont en difficulté pour remplir des documents administratifs, remplir des cases, remplir des déclarations de ressources, puisque au RSA, on doit donner ses ressources chaque trimestre.
Pour finir, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les compétences que vous vouliez garder la main au niveau du département. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas centraliser ça au niveau de l'État, mais bien d'en faire une compétence du département à part entière ?
Parce que le département, on le sait pas beaucoup, c'est compliqué hein, de savoir qui fait quoi dans les collectivités, entre la région, le département, les métropoles, les villes. Le département, c'est la collectivité des solidarités, de l'action sociale de proximité, de l'accompagnement social. Donc c'est important pour nous, je le redis, département de gauche et écologiste, de garder la main sur cet accompagnement social et de montrer que c'est essentiel dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, que l'insertion professionnelle peut convenir à certains, mais je le redis, pour d'autres, il y a des étapes, et cette étape, on est persuadé, et je peux vous le dire d'autant mieux que j'ai été pendant près de 15 ans sur le département travailleur social, c'est de l'accompagnement social, c'est de la proximité, c'est du lien de confiance pour aider les personnes en situation de très grande précarité. Vous avez commencé l'interview en nous parlant des associations de solidarité qui étaient effectivement contre l'expérimentation. Alors elles sont effectivement contre l'expérimentation sur ce dont on a discuté toutes les deux, notamment les 15-20 heures, les sanctions, les sorties du dispositif. Et elles sont pour qu'on y reste, nous les territoires de gauche, pour défendre une vision commune que nous avons avec les associations de solidarité. Et pour l'actualité du département, nous avons reçu hier les associations de solidarité, de lutte contre la pauvreté, avec le président du département, pour les engager à nos côtés dans cette expérimentation, puisque c'était leur demande au niveau national que les collectivités de gauche embarquées dans cette aventure restent pour défendre de l'accompagnement social, des solidarités, et donc redire ensemble que nous ne franchirons pas les lignes rouges qui ont pu être posées dans le cadre de cette expérimentation.
Merci beaucoup, Caroline Roger-Moigneux.
Merci. Mmh.